talmudique. Il faisait encore presque nuit quand Moïse sortit. Il ouvrit la porte de la bergerie. Il fut accueilli par le troupeau qui l'attendait, impatient de retrouver les chemins et les pâturages du désert. Sur le chemin, quelques brebis s'échappèrent, mais revinrent très vite auprès des bêtes qui se collaient les unes aux autres pour surmonter la fraîcheur de l'aube. La plus jeune des brebis avait du mal à suivre et Moïse y était particulièrement attentif. Le soleil était maintenant levé. Tout à coup, sur sa droite, Moïse aperçut au loin une étrange lueur. Sans quitter le troupeau des yeux, il s'écarta du chemin pour voir d'où venait cette lumière. Il aperçut alors, à sa grande surprise, un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Moïse se dit « Je vais me détourner pour voir pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas. » Dieu, dit le texte qui raconte cette histoire, vit que Moïse était détourné pour voir, alors il l'appela du buisson et lui dit « Moïse, Moïse ». Dans cet épisode du buisson ardent, nous assistons à la première révélation du Dieu biblique à Moïse. Un Dieu qui va le missionner afin qu'il aille sauver le peuple des Hébreux esclaves en Égypte. Moïse pose alors deux questions. Qui suis-je pour aller sauver les enfants d'Israël et les faire sortir d'Égypte? Et admettons que j'accepte cette mission. Les enfants d'Israël ne vont-ils pas me demander le Dieu qui t'envoie, le Dieu qui s'est présenté à toi comme le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Quel est son nom? Que leur dirais-je? Et Dieu répondit à Moïse, « Ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Et si tu veux savoir mon nom est justement « Je serai ». Plus précisément, « Je serai ce que je serai ». Oui, c'est ainsi que tu leur diras, « Je serai » m'a envoyé vers vous. Moïse reste quoi? Que dire devant une telle information? Comment comprendre que le verbe « être » conjugué à la première personne du futur serait-il répété deux fois, pourrait constituer un nom propre et en particulier un nom de Dieu? Voyant l'embarras de Moïse, Dieu cherche à expliquer ce qu'il vient de dire et ajoute. « Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, c'est le tétragramme, écrit des quatre lettres, Yod et Vav et, qui est le nom du Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, et c'est lui qui m'envoie vers vous. » Et Dieu, dans le texte, précise encore, « Cela est mon nom à tout jamais et mon appellation pour toutes les générations. » Bien sûr, ce passage soulève une infinité de questions et a suscité de très nombreux commentaires. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est que la révélation du Dieu biblique est tout d'abord et essentiellement la révélation d'un nom. Comme dit Franz Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption, « Car en vérité, le nom n'est pas bruit et fumée, mais verbe et feu. C'est le nom qu'il s'agit d'invoquer, c'est lui qu'il faut confesser, je le crois. » François Racheline, bonjour.
Bonjour.
François Racheline, vous arrivez aujourd'hui comme un ange, au sens classique de ce terme, un messager qui arrive au bon moment, au juste temps, à la bonne heure, et donc au bonheur si l'on peut dire, car votre dernier essai, intitulé « Un monothéisme sans Dieu », porte précisément sur ces questions des noms de Dieu, que vous abordez avec un questionnement qui interroge tout particulièrement deux des noms du Dieu de la Bible hébraïque, le tétragramme que nous venons d'évoquer, et le nom Elohim, ce nom du Dieu de la création, présent dès le premier verset de la Genèse. Ma première question sera très personnelle, si j'ose dire. Comment le professeur émérite d'économie à Sciences Po que vous êtes, à qui l'on doit de nombreux ouvrages qui ont ouvert de nouvelles pistes dans ce domaine, comment le romancier que vous êtes aussi, auteur de romans remarqués, qui puisent leur inspiration dans les mythes grecs et à la cour d'Espagne du roi Philippe IV et dans l'entourage de Velázquez, comment encore le mélomane, président du Paris Mozart Orchestra, en est-il arrivé à s'intéresser à la question des noms de Dieu, François Racheline?
C'est une question très... très difficile parce qu'elle met en cause les raisons pour lesquelles un être humain évolue et est pluriel. Et je suis probablement pluriel comme beaucoup d'autres êtres humains. Alors, je crois que si je réfléchis à ça, je me dis que il y a un héritage familial, un héritage paternel. J'accompagnais mon père à la synagogue, je le voyais prier. Il n'était pas très fervent, mais très sérieux, traditionnaliste. Et il avait, j'ai envie de dire, une connaissance silencieuse du judaïsme, et on peut transmettre aussi la connaissance par le silence, je suis sûr que vous me comprenez quand je dis ça. Et lorsqu'un jour mon ami Gérard Garouste m'a proposé de, parce qu'il avait rencontré un professeur d'hébreu biblique, m'a proposé de commencer à travailler sur cette question, je lui ai dit oui tout de suite, et ça fait plus de 20 ans qu'on travaille le texte hébraïque, et les commentaires, et les interprétations qu'on peut en avoir. Et au bout de 3, 4 ans, 5 ans, je ne me souviens plus exactement, notre professeur, qui s'appelle Diakov, mais qui ne veut pas qu'on donne son nom de famille, nous a posé la question à tous les deux, à Gérard et à moi, en disant, mais finalement, pourquoi est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est un peu la même question que celle que vous me posez ce matin. Et j'ai dû réfléchir. Et la réponse que je lui ai donnée, et celle que je vous donne maintenant, est relativement simple. Je voulais mieux comprendre pourquoi je pensais ce que je pensais. Je voulais mieux comprendre pourquoi j'étais qui j'étais. Et je ne savais pas au départ que c'était mon but. Et alors, Yaakov nous a appris quelque chose de merveilleux. Il a dit, mais lorsqu'on se lance dans l'étude, on doit se lancer dans l'étude sans but. C'est ce qu'on appelle en hébreu Torah Lishma. On étudie la Torah et puis, si on a un but, on peut le rater. Si on n'en a pas, on peut en découvrir beaucoup. Et j'ai découvert plusieurs buts, et parmi ces buts, il y a aussi celui d'avoir envie d'écrire des ouvrages. C'est mon troisième ouvrage, c'est une trilogie. Celui que vous avez évoqué, c'est-à-dire un monothéisme sans Dieu, vient après La loi intérieure, qui a été publiée en 2010, dans sa première édition, et puis Au commencement était le futur, qui date de 2014.
Alors c'est donc l'hébreu et en hébreu qu'il faut interroger les noms de Dieu. Une enquête policière que vous menez au fil du texte de la Torah. On vous suit de chapitre en chapitre, découvrant avec vous les différentes facettes de l'énigme qui réside dans ce pluriel du nom Elohim, pluriel qui tranche de manière surprenante avec le monothéisme du Dieu un ou unique de la Bible hébraïque. Un et unique, deux termes qui attirent votre attention, car si ces mots se ressemblent, ils ne veulent pas dire la même chose, François Rachkin.
Oui, alors ça, c'est quelque chose qui m'est apparu très, très récemment, enfin tardivement, disons. Pendant très longtemps, j'ai pensé, étant juif, que lorsque on prononçait le schéma, on dit un schéma Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est unique. Et en réalité, il n'y a pas écrit unique. Il y a dans le texte, dans le Deutéronome, 6-4, si je me trompe pas, il y a écrit, non pas Yahid, unique, mais Echad, est un. Et à partir de là, je me suis demandé s'il y avait une différence, et je crois qu'il y en a une, elle est ténue, mais il y en a une, entre unique et un. D'abord, le premier élément que j'ai envie de vous donner, c'est que jamais on ne trouve dans la Bible, il n'y a qu'un seul Dieu. J'ai cherché, j'ai jamais trouvé ça. Et la raison, c'est que dans les 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements, en tout cas, et ce qui est considéré que soit comme le premier, Chorakim le considère comme le premier, d'autres considèrent comme le second, enfin, le deuxième, pardon, peu importe, on dit, il n'y aura pas pour toi d'autres dieux d'autres Elohim sur mes faces. Bon. Il n'y aura pas pour toi, ça veut dire que il y a une reconnaissance dans la Bible, et on le retrouve dans beaucoup de versets, beaucoup de chapitres, et pas uniquement dans la Torah, et aussi chez les prophètes. Il y a la reconnaissance qu'il existe beaucoup de dieux, c'est une évidence. Les Grecs ont énormément de dieux, les Perses ont énormément de dieux, enfin bon, les Égyptiens ont énormément, beaucoup plus que d'ailleurs on peut l'imaginer parfois. Les Aztèques en ont, je crois, 200, bon, donc c'est considérable. Les Hébreux disent nos Elohim, parce que en plus dans le texte du schéma Israël, il y a quelque chose qui m'avait jamais frappé et qui m'a frappé là encore récemment. Il n'y a pas écrit notre Dieu, il n'y a pas écrit, il y a écrit Eloheinu, c'est-à-dire nos dieux. Elohim, nos dieux sont un. Donc ça veut dire on n'a pas de panthéon évidemment. Alors maintenant, est-ce qu'il est unique? C'est une autre question. Je ne crois pas, parce que s'il était unique, alors ça voudrait dire que tous les autres disparaissent. La Bible ne reconnaît que tous les autres existent. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a le deuxième point qui est évidemment très difficile. C'est, ok, très bien, il est un. Mais alors, comment il s'appelle? Vous avez rappelé tout à l'heure, ayez à chair, ayez, je serai ce que je serai. Permettez-moi de dire que dans les versets que vous évoquez sur le buisson ardent, le mot MRH en hébreu a été traduit par les Massorètes, par les disons, ceux qui ont vocalisé la Bible, puisqu'elle est écrite sans voyelle, l'ont traduit par prodige. Et effectivement, Mar-e, en hébreu, c'est un prodige. Mais le même mot, M-R-H, Mar-a, c'est un miroir. Donc, soit on dit que Moïse est confronté à un prodige, soit on dit qu'il est confronté à un miroir, c'est-à-dire à lui-même. Et qu'en lui-même, il se demande au nom de quoi il peut bien aller voir les Hébreux en disant, ça y est, réveillez-vous, je vais vous libérer. Donc je pense qu'il y a là quelque chose qui a introduit, moi, ma propre réflexion sur la nécessité de chercher autrement que la vision d'un dieu à la Charlton Heston dans Cécile B 2000 avec une grande barbe et les 10 commandements à la main.
Alors vous écrivez justement à propos de ces nombreux autres Elohim qui peuvent exister, mais pour toi, dites-vous, si tu adhères à la loi mosaïque, à la Torah, ce précepte n'est nullement une vérité universelle, opposable d'emblée à tous les êtres humains, mais un appel individuel. Il n'est pas question d'interdire universellement, mais d'inviter personnellement. Et je me suis dit, vous avez dû être heureux, François Racheline, d'avoir trouvé une phrase d'une facture si équilibrée, si profonde théologiquement et si importante politiquement. Un appel individuel, je reprends la formule, il n'est pas question d'interdire universellement, mais d'inviter personnellement. Alors, à quoi cela invite personnellement ?
Moi, je crois qu'il y a là une frontière extrêmement importante entre une vision autoritaire, voire dictatoriale, peut-être aussi prosélyte chez certaines religions, qui consiste à dire « j'ai la vérité et tu dois te plier à ma vérité ». Hors de moi, point de salut. Bon. La vision mosaïque est très différente, c'est-à-dire que c'est une plongée en soi-même, c'est une nécessité personnelle de se confronter au monde, d'essayer de comprendre ce qu'est le monde, ce qu'on est à l'intérieur du monde. Et donc, il y a, je crois, un souhait profond, une croyance même, qui est de dire, après tout, si chacun fait ce travail, et chacun peut le faire, mais il n'est pas donné à chacun de le faire facilement. Mais en tout cas, tous peuvent y arriver. Alors, on peut promouvoir ce que promeut la Torah, c'est-à-dire une responsabilité individuelle, de chacun de ses actes, ce que on trouve d'ailleurs tout au long du livre ou des livres, et non pas s'en remettre à une idole ou s'en remettre à quelqu'un d'autre. Et c'est très, je trouve que l'enseignement est très profond parce que il touche à des questions d'aujourd'hui. Quand vous regardez par exemple la petite nièce de Hermann Göring, elle n'est responsable de rien, cette femme. Elle n'a pas connu son grand-oncle et pourtant elle se sent coupable de quelque chose. Eh bien, la Bible dit non, t'es coupable de rien du tout.
Oui.
Tu es responsable de tes actes et agis selon tes propres actes. Ça me semble une frontière très importante entre l'universel imposé et l'individuel qui aspire à.
Et d'autant plus dans les temps qui courent, comme on dit, cela a un enjeu politique énorme.
Énorme.
C'est-à-dire que théologiquement, selon le texte de la Bible, il n'y a strictement aucune vocation pour ceux qui croient en un Dieu d'obliger les autres à croire dans le même Dieu.
Absolument.
Mais il y a le respect, peut-être ce pluriel Elohim, qui est tout à fait étonnant
oui.
dans une religion qui invente le monothéisme, ce pluriel invite au respect des autres dieux, mais invite à penser pour soi une dimension plus, je dirais, plus singulière, plus de
oui.
l'ordre de ce singulier.
Alors, ce que vous dites me fait penser que qu'on renvoie à Elohim ou qu'on renvoie au tétragramme que vous évoquez tout à l'heure, chaque fois, dans les 2250 traductions qui existent dans le monde, chaque fois, il faut donner une traduction, il faut donner un nom. On essaye, bon. C'est-à-dire qu'on fait quand même quelque chose que les traducteurs de Cervantes ne font pas. On garde toujours Dulcinée. Personne ne veut traduire Dulcinée. On dit, bon, alors c'est sa chérie, mais Dulcinée, c'est une Dulcinée. Là, pour le tétragramme, pour Elohim, il faut absolument traduire, il faut donner quelque chose. Alors c'est Yahvé, c'est Jéhovah, c'est tout ce que vous voulez, même Dieu, même si Dieu est un mot, peut être pris comme un nom propre comme un nom commun. Et je crois qu'une des grandes spécificités du texte biblique est justement de ne pas traduire, de ne jamais pouvoir traduire, de ne pas pouvoir nommer. Vous avez dit tout à l'heure, c'est mon nom pour toujours. Vous savez très bien que Rashi dit que Zdechemi Leolam, ça peut se lire aussi, c'est mon nom qui est caché pour toujours, parce que le Leolam vient de Léa Alim, selon la manière dont on l'écrit. Alors ça, c'est des argusies. C'est pas des argusies, ce sont des réflexions grammaticales, mais extrêmement importantes. Je crois que ça veut dire, c'est mon nom, mais il est caché pour toujours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nom qui est caché pour toujours? C'est un nom, c'est pas un nom, c'est les deux. Et je crois qu'on peut satisfaire tout le monde en disant, oui, c'est les deux. Si vous pensez qu'il y a un nom, cherchez-le. Et si vous pensez qu'il n'y a pas de nom, qu'est-ce que vous avez besoin de chercher quoi que ce soit?
Mais ça veut dire que dans ce texte, effectivement, le Olam se lit le Alem pour le cacher, le Elem pour qu'il soit caché. Il s'agit du tétragramme dont on cache la prononciation, d'ailleurs on la connaît pas,
oui.
et que l'on remplace par un autre nom qui est le nom Adonai, mais qui est d'un point de vue, je dirais, cognitif, extrêmement important, puisque ça veut dire que l'esprit est capable de substitution. Oui. Et ça, au niveau de la progression cognitive d'un enfant, être capable de substituer une chose à une autre chose, c'est quelque chose de très profond, de très avancé pédagogiquement et intellectuellement, puisque par exemple, dans la loi, à un certain moment, il n'y a pas, comme on le dit toujours, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, mais la loi juive va substituer à la blessure une compensation financière. Et pour être capable de substituer une compensation financière à l'œil qui est blessé, c'est déjà une très très grande avancée.
Oui, c'est assez,
François Racheline.
Oui, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. Je repense, en vous écoutant, à mon père. Vous dites, on ne sait pas comment prononcer le tétragramme. Le jour de Kippour, il y a un moment où on raconte comment le grand prêtre, à l'époque biblique, rentrait dans le Saint des Saints, le Lifne Velifnim, et puis prononçait le nom divin. Et alors, comme il pouvait lui arriver quelque chose, il fallait qu'il transmette ce nom à celui qu'il remplacerait éventuellement. Mon père était fasciné par ça, parce qu'il y a une multiplicité de détails. C'est absolument extraordinaire. Bon. Et j'ai toujours été fasciné par cette histoire, et puis je me suis dit, mais enfin, quand même, le judaïsme qui se souvient de tout, ou de pratiquement tout, ne se souvient pas juste de ça, on s'en souvient pas. Il est évident que le grand prêtre, peut-être, sentait en lui une présence divine, mais il ne pouvait pas dire le nom divin, puisque c'est pas possible. Et donc, il faut s'arranger avec ça. Il faut s'arranger avec une absence créatrice de la pensée.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night. The sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops fell, echoing the waves of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence.
Magnifique hymne qui interroge le vrai silence, non celui où les hommes discutent mais ne se parlent pas, non celui où les hommes écoutent mais ne s'entendent pas, non celui des personnes qui écrivent des chansons qu'aucune voix ne partagera jamais, ni celui des hommes réunis et inclinés devant le dieu de néon et de publicité, mais le silence des prophètes qui écrivent sur le mur du métro et le mur du hall des immeubles, un silence qui murmure à travers le son du silence. C'est les paroles de cette musique que je viens de traduire. N'est-ce pas là, François Racheline, un beau commentaire moderne du tétragramme que nous offre Simon & Garfunkel?
Je ne sais pas si c'est un commentaire, mais en tout cas c'est un écho. C'est-à-dire, alors c'est un peu curieux de dire que le silence est un écho du tétragramme, mais c'est une manière de dire que finalement le silence d'abord l'emporte sur tout, et puis il y a beaucoup de silences, il y a des silences extraordinairement différents. Vous pouvez avoir un silence de lâcheté, vous pouvez avoir un silence de courage, celui qui ne parle pas sous la torture et qui est silencieux et courageux. Vous pouvez avoir le silence de la mort, vous pouvez avoir le silence qui consent. Enfin, le silence recouvre un très grand nombre de situations, et je pense que l'idée de... C'est votre choix. L'idée de Simon & Garfunkel, c'est de, aussi de, une sorte de prime au silence. Dans une époque, alors c'est un petit peu vieux, c'est des années 60, mais ça n'a fait que se renforcer dans une époque qui est extrêmement bruyante et qui aurait besoin d'un peu plus de silence, me semble-t-il, parfois, en tout cas. Voilà.
Alors, l'affirmation habituelle est que les quatre lettres du tétragramme sont imprononçables, on vient d'en parler, d'autant que personne ne peut dire quelle voyelle leur associer. La plupart du temps, les auteurs développent de nombreux arguments pour expliquer le pourquoi de cette étrangeté. Toutes les divinités vénérées par les êtres humains portent un nom, vous l'avez dit, facile à prononcer, mais que tout un chacun peut articuler dans sa langue, mais pas le Dieu de la Bible hébraïque, d'où une question d'apparence simple, dites-vous. Ne faut-il pas inverser l'interrogation des érudits, non pas répéter qu'il est dans la nature du tétragramme d'être indicible, mais se demander quel concept Moïse se devait de créer pour qu'il restât définitivement imprononçable, de sorte que se déplace le questionnement lui-même. Ce n'est pas parce que la divinité des Hébreux possède un nom imprononçable qu'elle est singulière, mais c'est parce qu'il fallait qu'elle fût singulière qu'on lui a attribué un vocable indicible. Quel concept, François Racheline, Moïse se devait-il de créer? Quelle est cette singularité?
Vous voyez, vous avez dit au début le Dieu des Hébreux, et à la fin de votre question, vous dites quel concept. Je pense que si on dit le Dieu des Hébreux, on est un peu victime d'une vision en termes déiste ou théiste. Si on dit le concept, on est déjà dans le versant, ce qu'on pourrait appeler le versant philosophique de la Bible. Évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'elle est philosophique et pas religieuse. Les deux sont parfaitement ou compatibles ou admissibles. Mais je crois que... ce que je vais vous dire était un petit peu osé, mais je suis Moïse, je suis dans le désert, j'ai les brebis, donc comme vous évoquez tout à l'heure. Je pense qu'il faut que le peuple hébreu se libère. Bon, je m'interroge. Je vais pas aller les voir en disant ces machins, ces trucs qui m'envoient. Je vais les voir au nom d'un principe que Tacite n'a pas été loin de comprendre, bien qu'il ait été un des tout premiers antisémites et qu'il ait très très mal compris le judaïsme à son époque. Mais je me dis, dans le fond, je vais dire à chacun et à chacune de ces êtres à qui je vais m'adresser, puise en toi la force qui te permettra de sortir, puise en toi la nécessité de la liberté, puise en toi la nécessité de devenir, de ton devenir, de ton futur. À partir de là, je veux bien qu'on appelle ça Dieu, mais je trouve que on est déjà victime de ça. Si on dit Dieu, on abaisse un petit peu la pensée. C'est un peu curieux de dire ça, et j'espère que je serai pas brûlé en place publique pour avoir dit une chose pareille. Mais, donc si vous voulez, je crois qu'il y a là quelque chose qui est extraordinairement fort. On revient un peu à l'universel et au singulier qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire, plonge en toi, pars de toi. Si tu pars de toi, alors tu n'es pas seul. Tu peux le faire avec les autres. Mais que chacun fasse cet effort-là. C'est ça que j'appelle le tétragramme.
Alors, ce qui est intéressant, dans ce livre et dans les précédents, vous évoquez le fait que Moïse, comme d'autres, ont rencontré Dieu face à face, en hébreu panim el panim, et vous rappelez qu'il y a une homophonie entre panim, ou en tout cas une homographie, entre panim et penim. Ça s'écrit de la même façon, panim veut dire visage, et penim veut dire l'intériorité. Et vous dites que la rencontre que Moïse fait avec Dieu au buisson ardent, par exemple, ce n'est pas une rencontre visage à visage, face à face, mais intériorité à intériorité. Ce que vous venez de dire, c'est-à-dire en fait, et ça rejoint aussi la lecture que vous avez faite sur le mara, c'est-à-dire sur le miroir. Le prodige, c'est d'avoir un miroir suffisamment intelligent qui me permette de rentrer en moi-même pour réfléchir, épuiser en moi, comme vous venez de le dire, la force de ma liberté, de ma libération et de mon devenir. Et j'ai l'impression que ce que Moïse devait inventer, devait créer, ce que j'ai appelé le concept, mais je l'ai appelé parce que c'est vous qui l'écrivez ainsi dans dans votre texte, ce concept de Moïse qui est peut-être justement très intellectualisé dans le mot concept, c'est le mot intérieur qui est compliqué. L'intériorité, c'est quelque chose de compliqué à faire comprendre, et peut-être que l'image... Je pensais que quand vous allez opposer le mot hébraïque au mot concept, vous allez opposer une pensée biblique qui ne possède pas de concept à une pensée grecque qui travaille avec des concepts. Or, comment, dans une pensée qui n'a pas de concept, dire l'intériorité ? Et on a besoin d'un objet. Et c'est cet objet dont vous avez parlé qui est justement le miroir. C'est-à-dire comment se regarder de telle manière qu'on rentre à l'intérieur de soi. Et c'est ce concept de l'intérieur de soi que Moïse avait envie de faire découvrir à ses interlocuteurs, et donc de ce fait il a inventé ce nom, ce Dieu sans nom. Est-ce que c'est
oui,
cela?
Oui, ce que vous dites me convient parfaitement. J'ajoute que lorsque un être humain, une femme ou un homme, est envahi par un projet, comment l'exprime-t-on? On dit il brûle, mais il ne se consume pas. Quand vous brûlez de l'intérieur parce que vous voulez, vous ne pouvez pas faire autre chose que de faire ce que vous ressentez en vous, sans être un prophète comme Isaïe ou Jérémie, il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé, on dit, c'est un projet qui me tient tellement, je brûle, mais vous n'êtes pas consumé, vous n'êtes pas tué par ce projet. Vous pouvez vous tuer à la tâche, mais vous n'êtes pas tué par le projet. C'est ce qui se passe. Alors l'idée d'intériorité, de concept d'intériorité, je suis d'accord avec vous, c'est difficile, c'est la chose la plus difficile qui soit. Montaigne disait que nous sommes tous, sans exception, des étrangers pour nous-mêmes. Et que plus on plonge en nous-mêmes, plus on découvre non seulement qu'on est étrange, mais qu'il y a une étrangeté qui nous échappe. Bon. Il me semble que Moïse n'a pas dû faire exception à la loi.
Oui, alors justement, vous dites quelque chose de très important ici, que vous développez dans votre réflexion, c'est que plus on plonge à l'intérieur de soi, plus on découvre qu'on est pluriel.
Oui,
plus
exactement.
On découvre exactement que l'on a des visages différents, et c'est peut-être en cela qu'on est à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image du pluriel. Elohim serait pluriel pour que l'homme qui est à l'image de cet Elohim comprenne aussi que lui est pluriel, qu'il a cette manière d'être, mais qu'il peut changer, qu'il peut évoluer, qu'il n'est pas monolithique.
Oui, parce que il faut ajouter à ce que vous disiez tout à l'heure sur panim ou penim, que intérieur et face se met toujours au pluriel. Il y a des mots comme ça, décombre en français se met toujours au pluriel, obsèque se met toujours au pluriel, en hébreu c'est toujours au pluriel, mais ça a un sens très fort, parce que aucun d'entre nous n'a un intérieur, nous avons des intérieurs, et d'ailleurs, comme intérieur et face se correspondent, selon les moments dans la matinée, dans la journée, dans l'année, on peut montrer des faces très différentes qui correspondent à nos intérieurs, on peut être malade, on peut être mal fichu, au contraire très joyeux. Nos faces expriment ça, ce que n'exprime pas la face d'un mort ou la face d'une idole, qui n'a pas d'intérieur. Il n'y a plus d'intérieur. Donc nos intérieurs sont multiples, et on doit jouer avec ce multiple, et en même temps nous sommes un. Je me suis permis dans mon livre d'inverser un verset de la Genèse, où il est dit, Elohim dit, Naase Adam, Betzalmenu Kidmotenu, c'est-à-dire nous ferons l'homme à notre image, et j'ai dit, Vayomer Adam, c'est-à-dire Adam dit, nous ferons, d'ailleurs l'homme dit, nous ferons Elohim à notre image.
Alors justement, ça rejoint là aussi ce que les kabbalistes que vous convoquez souvent dans votre réflexion, et particulièrement Rabbi Chaim de Volozhin, qui propose une autre hypothèse concernant l'indicible tétragramme. Il est indicible car pour créer le monde, Dieu s'est retiré de lui-même en lui-même, il s'est absenté du monde, le monde étant le lieu même de sa disparition, de son absence et de son silence, il s'est retiré pour laisser la place à l'homme, pour que l'homme agisse à son tour à partir de sa responsabilité, devenant à l'image du divin retiré, un artiste de la vie, ce que vous formulez à votre façon en déplaçant une virgule dans une célèbre maxime qui se trouve dans le traité talmudique des Pirkei Avot, les maximes des pères, une porte ouverte à ce que vous appelez un monothéisme sans Dieu, François Rachlin.
Oui, alors la fameuse phrase c'est « sache que ce qui est qu'il y a quelque chose au-dessus de toi », pour le dire simplement en français.
Hébreu, oui.
Voilà. Il y a d'ailleurs une petite une faute de frappe dans le livre là-dessus qu'on va corriger pour la prochaine édition. Sache que il y a quelque chose en haut qui est au-dessus de toi, et donc ça va dépendre de toi, de la manière dont les choses vont évoluer là-haut, parce que si tu te comportes bien, tu seras bien. Et si vous déplacez la virgule du texte, on peut le lire de la manière suivante: sache que ce qui est en haut, ce qui est ailleurs, c'est toi qui le fais. Donc moi, j'ai pas besoin de dire que Dieu s'est retiré. J'ai pas besoin de ça. Je constate que même sans Dieu, ça marche.
C'est ce que vous appelez le monothéisme sans Dieu.
Ben, j'ai envie de dire que la Bible pourrait être aussi la face cachée de l'athéisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de Dieu pour que ça fonctionne.
Merci François Rachlin pour ces passionnantes réflexions. Merci pour ce beau livre dont je rappelle le titre « Un monothéisme sans Dieu » qui sort cette semaine aux éditions Hermann. Un livre qui se lit un crayon à la main. Un livre qui, comme dans un bon roman policier, vous maintenez le suspense jusqu'aux conclusions, qui résonne encore longtemps dans le silence éloquent qui surgit après le dernier point. Merci encore François Rachlin.
Merci Marc-Alain Wattlin.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wattlin et de Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Sébastien Royer, à la réalisation, comme d'habitude, d'Annie Journeau, Coltouve, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.